connaissances et témoignages. Présenté par Anne Bernet, l'abbé Guérin.
Bonjour, nous sommes ce matin en compagnie de Mgr Dominique Ray, évêque de Fréjus et Toulon, qui nous fait le plaisir et l'honneur de participer à cette émission. Bonjour Mgr.
Bonjour.
Mgr, d'abord un grand merci pour votre présence sur notre antenne. Ensuite, pouvez-vous nous parler de ce sanctuaire remarquable que possède votre diocèse de Fréjus-Toulon ? Sanctuaire auquel vous avez, je crois, contribué à rendre toute cette importance. Il s'agit de Notre-Dame des Grâces à Cotignac. Pourriez-vous nous raconter, Mgr, ce qui s'est exactement passé le matin du 10 août 1519 sur la paroisse de Cotignac au Mont Verdaille ?
Eh bien, ce matin du 10 août 1519, un bûcheron nommé Jean de la Baume, ou encore Jean de la Sacque, travaillait au milieu des chênes verts de la colline qu'on appelle le mont Verdaille. Et dans un grand faisceau de lumière, il voit tout à coup la Vierge Marie tenant dans ses bras l'enfant Jésus, les pieds posés sur un croissant de lune. Trois saints l'entourent, Saint Michel, Sainte Catherine et Saint Bernard de Clairvaux. Dans l'immédiat, Jean de la Baume n'est pas sûr de ce qu'il a vu et il n'en parle pas. Mais le lendemain, après avoir prié, l'apparition a lieu à nouveau au même endroit. Cette fois, la Vierge Marie parle à Jean de la Baume et je peux citer ses propres mots. « Je suis la Vierge Marie, allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église » sous le vocable de Notre-Dame de Grâce, et qu'on y vienne en procession pour recevoir toutes les grâces que je peux y répandre. Voilà exactement ce qui s'est passé.
Nous avons là, Mgr, un message, j'allais dire, extrêmement classique, et qui, pour beaucoup d'auditeurs, va probablement évoquer les apparitions de Notre-Dame rue du Bac en 1830, tout comme ses demandes à Bernadette en 1858, « Allez dire au clergé » de me bâtir ici une chapelle ou une église, j'y répandrai mes grâces. Il y a une grande continuité dans les demandes de Notre-Dame à travers les siècles.
On ne peut pas dire qu'un message de la Vierge est classique ou commun, c'est toujours un événement extraordinaire. Les apparitions de la Vierge Marie ont bousculé les certitudes et réveillé le zèle apostolique des catholiques. En revanche, oui, on peut dire que les demandes de la Vierge sont cohérentes entre elles, et il est vrai qu'on peut les lier. Toutefois, le risque serait alors de passer sur la spécificité d'un message qui doit être toujours contextualisé. Les paroles de la Vierge sont simples, mais au-delà, son apparition se situe dans un cadre particulier, celui de la naissance du protestantisme, qui conteste notamment le culte de la Vierge et des saints.
Nous avons là d'ailleurs, Mgr, quelque chose que l'on va retrouver petite centaine d'années plus tard dans le diocèse de Grenoble, lors de l'apparition de Notre-Dame de Lauziers, où nous avons également une apparition, plutôt plusieurs apparitions de Notre-Dame, à un adulte. Et je trouve cela assez remarquable parce que par la suite des temps, nous voyons des voyants qui sont de très jeunes enfants ou des adolescents. Et là, qu'il s'agisse de Jean de la Baume, ou du voyant de Notre-Dame de Lauziers, nous avons affaire à des hommes adultes. Dans le cas de Grenoble, c'est un homme tenté par le protestantisme. Qu'en est-il de Jean de la Baume? Est-ce que lui-même est peut-être attiré par les prémices de la Réforme?
Je ne pense pas. En tout cas, nous n'avons pas des données précises à ce sujet. Ce que je voudrais quand même rajouter, c'est que ce qui est très frappant à Cotignac, c'est que Notre-Dame n'est pas venue seule. Elle a été accompagnée de Saint-Michel, Sainte-Catherine et Saint-Bernard, je viens d'en parler. Saint-Michel et Sainte-Catherine sont deux des voix de Jeanne d'Arc. Et il me semble que la présence de Saint-Michel et de Sainte-Catherine annonce quelque chose qui est très important par rapport à l'histoire de France. C'est à Cotignac que la Vierge Marie a décidé d'orienter une nouvelle fois la destinée de notre pays. Et cette présence est annonciatrice du vœu de Louis XIII. Dans le contexte particulier de la naissance du protestantisme, La présence de Saint-Michel rappelle que le vainqueur des ruses du démon et chef de la milice céleste a aussi dit à Jeanne d'Arc « Je suis Michel, le protecteur de la France ». La biographie de Sainte Catherine, et notamment l'épisode de la conversion des 50 savants païens que l'empereur Maximien avait rassemblés pour confondre la jeune femme, nous rappelle que Cotignac a partagé avec le triomphe de la vérité. Donc de ce point de vue, il y a quelque chose qui n'est pas sans rapport avec la question de la réforme protestante et des débats théologiques, politiques et parfois aussi militaires qu'il y a pu y avoir à cette époque entre le catholicisme et la naissance, l'éclosion du protestantisme.
Je me permets d'ajouter, Monseigneur, que Sainte Catherine est par ailleurs la patronne de la maison de Valois, donc la protectrice des rois de France à l'époque. Nous avons là en effet cette continuité de la protection de Notre-Dame sur la France et sur ses destinées. Vous évoquiez à l'instant le vœu de Louis XIII, qui nous renvoie à un épisode bien connu, c'est celui en 1637 des apparitions de Notre-Dame des Victoires aux frères Fiacre. Et la première demande de Notre-Dame des Victoires à frère Fiacre est précisément de lui demander de transmettre à la reine Anne d'Autriche la nécessité de faire 3 neuvaines, une à Notre-Dame de Cotignac, une à Notre-Dame de Paris et une à Notre-Dame des Victoires. Il est très frappant en effet que la première demande soit une neuvaine à Notre-Dame de Cotignac, Monseigneur.
Oui, oui, c'est vrai que la gloire de Notre-Dame de Cotignac va atteindre des sommets lors de l'apparition en novembre 1637 de Notre-Dame des Victoires aux frères diacres, la Vierge demande aux religieux de transmettre à la reine d'Autriche un message, dire 3 neuvaines en l'honneur de Notre-Dame de Cotignac, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame des Victoires. Et de ce fait, ce petit village de Cotignac, qui n'était jusqu'alors pas très connu et pas de grande importance, va, du fait de ce message aux frères diacres, recevoir une renommée qui va traverser les siècles.
Et nous savons que le résultat de ces neuvaines et la naissance, qu'on en juge alors quasiment miraculeuse après la longue stérilité du couple royal, du dauphin Louis Dieudonné, le futur Louis XIV. Or, nous sommes là à nouveau dans les destinées de la France. Notre-Dame de Cotignac est intervenue avec Saint-Michel et Sainte-Catherine, comme vous le rappeliez, pour mettre en garde contre les risques du protestantisme, les risques de guerre civile et de division. Elle apparaît à nouveau pour demander à son fils la naissance de ce dauphin qui va épargner à la France une crise de succession certainement préjudiciable. Donc Notre-Dame s'intéresse, Monseigneur, aux destinées de notre patrie.
Oui, la foi n'est pas désincarnée. La foi, elle se manifeste comme une vérité qui transcende les temps, mais qui s'inscrit dans une histoire, et qui vient apporter une lumière venue d'en haut sur les réalités temporelles et aussi les réalités politiques. Ce que je voudrais souligner, que en particulier... ce sont les liens qu'il y a entre Notre-Dame de Pontmain et Notre-Dame des Victoires et qui créent un lien aussi avec Cotignac. L'apparition à Cotignac s'inscrit dans une continuité, mais là qui a un impact sur l'histoire de France, sur la vie politique de cette époque, qui, de ce point de vue, caractérise Cotignac par rapport aux autres apparitions. La grossesse de la reine Anne d'Autriche, après une longue période de stérilité, vous l'avez souligné, est inattendue, et la naissance de Louis XIV intervient précisément à l'issue des neuvaines demandées par la Vierge, apparues aux frères Fiacre. Et cette apparition a eu lieu une nuit dans le couvent parisien où réside le frère Fiacre. Alors que le frère Fiacre doute lui-même de ses visions, la Vierge lui décrit le sanctuaire de Notre-Dame de Grâce de Cotignac et un tableau représentant la première apparition de 1519 avec des descriptions qui se révéleront tout à fait exactes. Et le frère Fiacre sera bientôt envoyé à Cotignac pour y dire la neuvaine demandée par la Vierge. Et dans le même mouvement, Louis XIII se décide à consacrer la France à Marie le 6 janvier 1638. C'est le fameux vœu de Louis XIII qui est toujours lu le 15 août. Et ce vœu est une action de grâce pour l'obtention d'un héritier. Par la suite, le roi Louis XIV viendra lui-même à Cotignac lorsqu'en 1660, il se met en route vers Saint-Jean-de-Luz pour signer la paix avec l'Espagne. Ce sera un détour vers ce sanctuaire de Cotignac, et le roi et la reine, sa mère, se rendront à Cotignac le 21 février.
Il y a un détail, Monseigneur, que j'avais perdu de vue et que vous venez de nous rappeler, c'est que lors de l'apparition, effectivement, Notre-Dame est apparue tenant l'enfant Jésus debout sur le croissant de lune. Et à Pomain, comme à Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame paraît avec la robe étoilée. Nous avons là des références très explicites à la vision de l'Apocalypse, la femme couronnée d'étoiles marchant sur la lune. C'est tout à fait remarquable. Et nous avons là cette continuité que vous évoquiez entre Cotignac, Notre-Dame des Victoires et Pomain, et donc les destinées de la France. Mais
oui.
Il y a une question que je n'ai pas abordée, Monseigneur, tout à l'heure, et qui m'intéressait, si vous voulez bien, peut-être nos auditeurs également, c'est cette présence de Saint Bernard de Clairvaux. Alors, bien entendu, nous connaissons le grand docteur Marial et ses admirables textes sur Notre-Dame. Il est assez normal de le voir présent auprès de la Vierge Marie. Mais c'est tout de même assez exceptionnel. Je crois même que c'est unique, cette présence de Saint Bernard dans une apparition. Est-ce qu'il y a un culte spécial rendu à Saint Bernard dans la région qui explique cela ?
Non, pas particulièrement. Je pourrais interpréter cette présence de Saint Bernard d'abord en sa qualité de chantre de Notre-Dame, vous venez de le signaler, mais aussi pour son combat en faveur de la vérité. Lui aussi a un profil combattant. À l'image de Saint Michel ou de Sainte Catherine, il s'est battu pour la foi dans le Christ et dans la fidélité à l'enseignement de l'Église. Et donc le contexte que nous évoquions il y a quelques instants, lié à l'éclosion de la réforme protestante, cette présence de Saint Bernard est vraiment significative. Et en continuité avec les personnes que l'on vient d'indiquer, les personnages qui entourent la Vierge dont nous faisions mention il y a quelques instants.
Nous sommes donc bien dans une série d'apparitions qui intéressent les destinées de la France et de l'Église. Or, il se passe à Cotignac quelque chose d'assez remarquable, c'est qu'en 1660, nous avons une nouvelle apparition, mais cette fois non plus de la Sainte Vierge, mais de Saint Joseph. Pouvez-vous, Monseigneur, nous raconter cette apparition ?
Donc, peu de temps après le passage de Louis XIV, le 7 juin 1660, un berger, Gaspard Ricard, vers faire paître son troupeau au Bessillon. Il est environ 15h de l'après-midi, la chaleur est torride. La chaleur est telle qu'il en vient à craindre pour la vie de ses brebis et même pour la sienne. C'est un homme de grande stature qui lui apparaît et qui lui dit, dans la langue provençale, en désignant un lourd rocher, « Enlève-le et tu boiras ». Miraculeusement, Gaspard Ricard parvient à bouger ce rocher, et voici qu'une source jaillit. Ce sont à ce jour les seules paroles de Saint Joseph que l'on connaisse dans une unique apparition reconnue par l'Église.
Parce que nous avons bien une apparition de Saint-Michel, de Saint-Joseph en Irlande à Knock dans les années 1880, mais il est muet.
Oui, là, il s'exprime. Et alors, naturellement, c'est cette référence à une source, cette virilité qui est nécessaire pour soulever le rocher, ont une signification symbolique extrêmement forte. L'invitation qui est faite comme à ce Ricard, comme elle sera faite quelques siècles après à Bernadette de Lourdes, de boire à une source, là aussi est quelque chose qui exprime une continuité qui a une consonance biblique extrêmement forte quand on pense à Ézéchiel. La source jaillit du temple et la source qui jaillit du côté ouvert du Christ dans l'évangile de Jean. Et aussi cette dimension de la mobilisation des énergies masculines pour soulever un rocher, pour participer finalement à l'irruption de la grâce à travers un effort qui complète l'action de Dieu qui fait jaillir la vie dans cette source qui apparaît.
Est-ce l'une des raisons pour lesquelles, Monseigneur, vous avez, me semble-t-il, redonné à ce pèlerinage à Saint-Joseph dans votre diocèse au mois de mars une place importante?
J'ai consacré effectivement le diocèse à Saint-Joseph. Je vois dans ce personnage quelqu'un qui a beaucoup à nous enseigner sur le plan de la mission de l'Église aujourd'hui. Nous avons la chance dans le diocèse de Fréjus-Toulon d'avoir deux personnages bibliques qui sont des patrons du diocèse. C'est à la fois Marie-Madeleine à la Sainte-Baume, l'apôtre des apôtres, comme le diront les pères de l'Église, et puis Joseph, Marie qui est annonciatrice, prophète de la bonne nouvelle de la résurrection et qui le clame aux apôtres, qui vient réveiller la foi endormie ou anesthésiée des apôtres, et puis Saint Joseph qui se tait, lui qui reçoit l'injonction de parler et Joseph l'ordre de se taire, pour que jaillisse, pour que grandisse le Verbe fait chair, la parole qui jaillit du silence. On parle de Joseph comme l'ombre du Père dans la tradition spirituelle. Donc quelqu'un qui a beaucoup à nous dire aussi aujourd'hui sur la vertu de la pudeur, la grâce du silence, l'exercice de la foi, puisque Dieu lui apparaît de nuit en songe et il l'invite à pouvoir préparer humblement, discrètement, la croissance humaine de Jésus.
Je sais, Monseigneur, que vous rentrez d'un voyage en Syrie au-devant des chrétiens d'Orient éprouvés. Je crois que vous avez jumelé votre diocèse avec celui d'Homs. Peut-être pourriez-vous nous parler très rapidement de ce voyage, de ses buts et de ses résultats.
Alors, effectivement, le diocèse de Fréjus-Toulon a été jumelé avec le diocèse de Homs, l'église melkite, donc grecque catholique, présidée par Monseigneur Arbach. Et celui-ci m'a fait la joie de venir dans le diocèse signer ce jumelage au mois d'octobre. Précédemment, j'étais allé lui rendre visite et découvrir les communautés chrétiennes au mois d'août. Et là, je reviens d'un voyage avec une délégation d'une cinquantaine de personnes pour consolider, approfondir les liens que l'on a et que l'on doit avoir, je pense, plus que jamais, avec ces églises martyrisées. Ce qui me frappe, c'est à la fois le désastre économique, matériel, de ces régions dévastées par la guerre et qui étaient avant des régions paisibles. J'ai eu le premier voyage que j'ai fait en Syrie il y a 40 ans, ça m'avait permis de découvrir un pays avec une richesse extraordinaire, une grande paix entre les différentes communautés chrétiennes communautés chrétiennes et musulmanes, où les chrétiens d'ailleurs faisaient le pont et faisaient le lien entre ces différentes réalités religieuses. Et là, j'ai vu un pays saccagé par la guerre, des églises éventrées, des quartiers entiers qui ont tombé à terre, des rues qui sont impraticables. Mais petit à petit, ce qui m'a frappé par rapport au dernier voyage que j'avais fait il y a quelques mois, c'est que je trouve que peut-être la vie reprend cours. Ce qui m'a frappé, c'est au fond que ces hommes et ces femmes qui traversent la guerre, car le pays connaît encore des conflits, même si les troupes gouvernementales, avec l'appui des Russes, sécurisent à peu près maintenant beaucoup de régions, pas toutes, mais beaucoup, même si un climat de paix semble petit à petit s'instaurer, c'est néanmoins la foi de ceux et de celles qui sont restés là. Nous sommes édifiés par la foi de ces hommes et de ces femmes qui ont traversé l'épreuve des persécutions, des destructions. Et ce qu'il faut aider, c'est le but du parrainage et du partenariat qu'on a développé, c'est que ces chrétiens puissent rester sur place. Il ne suffit pas de leur dire ne pensez pas que l'Europe soit un Eldorado, il faut en donner les conditions économiques pour que les gens croient en un avenir possible. Et c'est tout notre exercice à travers ce jumelage d'aider par des apports matériels, par des financements d'églises qu'on veut reconstruire, d'aider ces chrétiens à rester pour donner à ce pays une espérance. Nous sommes dans des terres où nous sentons très bien que ce sont nos propres racines. Nous avons une consanguinité entre eux et nous qui fait que leur foi nous est précieuse, leur fidélité soutient la nôtre. Jamais peut-être la foi n'est aussi vive que lorsqu'elle rencontre la persécution et qu'elle est confrontée au mystère de la croix.
Est-ce qu'il y a un moyen pour ceux de nos auditeurs qui le souhaiteraient de soutenir cette action, Monseigneur ?
Oui, alors il y a des grandes organisations qui sont mises en place au niveau chrétien. Il y a l'aide à l'Église en détresse, il y a l'œuvre d'Orient, il y a des associations nouvelles comme le
SOS Chrétien d'Orient.
SOS Chrétien d'Orient, qui œuvrent chacun suivant leur charisme dans ce travail de soutien, de solidarité. Donc il est très facile par les réseaux sociaux de se procurer des adresses et de voir quel type d'action correspond le plus à nos possibilités et aux nécessités surtout de ces chrétiens.
Enfin, Monseigneur, pour conclure, quelle place dans les difficultés qui sont celles de la France, de l'Europe, du monde, de l'Église actuellement, quelle place donnez-vous à Notre-Dame pour résoudre précisément ces crises et ces problèmes ?
Je pense que Marie nous aide à croire. Elle est la femme qui énonce encore aujourd'hui le fiat qui est nécessaire pour savoir que l'on peut compter absolument sur Dieu, que à travers les épreuves, les difficultés, les crises, qu'elles soient économiques, politiques, humaines, qui sont les nôtres, il y a une présence qui nous espère. Il y a une confiance que nous trouvons dans la foi qui nous permet de marcher au cœur de la nuit. Marie nous donne aussi la vertu d'espérance. Elle est déjà dans la gloire près de son Fils. Elle est au bout du chemin. Et dans cette existence transfigurée qui est la sienne, elle nous tend encore la main. Nous savons que malgré les désespérances, les découragements, nous avons une aurore qu'elle incarne. Elle est au début du salut, au début de l'incarnation de Jésus, et elle est au début d'une humanité nouvelle, et le regarder vers elle nous aide à avancer. Et puis, elle est le modèle de la charité. Marie, c'est celle qui, au Cénacle, par sa foi, par sa prière, entraîne, encourage les apôtres à accueillir le don de l'Esprit Saint. Et elle nous aide aussi à, dans un monde individualisme, où on est souvent dans l'anonymat du chacun pour soi, elle nous aide à compter sur la grâce de Dieu et à compter sur nos frères et à nous appuyer sur l'Église dont elle est la mère pour qu'ensemble, nous allions plus loin. Seul, on peut aller vite, mais c'est avec les autres qu'on ira très loin. C'est avec l'Église, avec l'amour de l'Église et la joie de l'Église, que l'on avance sur les routes du monde.
Merci, Monseigneur, pour cette très belle conclusion.
Merci.
Et j'espère peut-être avoir une autre occasion de reparler tout cela avec vous à l'antenne. Merci encore, Monseigneur.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt. Nous avions le plaisir d'être avec Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus et Toulon.
Merci.
Au revoir, Monseigneur.
Au revoir.